Vous écoutez France Culture.
Aujourd'hui, la grande table d'été est d'une blancheur bleutée de porcelaine et des carpes nagent à sa surface comme sur le dos tatoué d'un yakuza. Par la fenêtre, la tour Eiffel a des airs de Mont Fujiyama et tous nos invités semblent rassemblés sous un prunus en kimono noir. À l'évidence, la grande table vous entraîne aujourd'hui au Japon, en compagnie tout d'abord de la romancière Radhika Jha et du cinéaste Jean-Pierre Limosin, qui chacun à leur façon donne voix, à travers des personnages singuliers, aux démons et aux merveilles de l'archipel nippon. Puis, dans une deuxième partie, nous retrouverons le grand éditeur des littératures asiatiques, Philippe Piquier, et le poète Jean-Pierre Siméon, animateur des Lectures sous l'arbre, le festival ardéchois qui met le monde flottant à l'honneur cette année. Pour l'heure, place à une exploration des lumières et des ombres, des vitrines rutilantes, des paysages naturels et des anfractuosités du Japon d'hier et surtout d'aujourd'hui, avec mes deux invités qui sont la romancière Radhika Jha. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez, Radhika Jha, en cette rentrée littéraire, La beauté du diable aux éditions Piquier, un portrait de femme seule, ivre de sacs de luxe et d'escarpins siglés. Et puis à vos côtés, dans notre studio, se tient l'amateur éclairé, non de cuir monogrammé, mais de peau tatouée, celle des bandits japonais et puis aussi des versants escarpés du Mont Fuji, le cinéaste Jean-Pierre Limosin. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Limosin, après vos films documentaires et de fiction qui naviguaient déjà dans l'archipel nippon, entre autres Tokyo Eyes et puis Young Yakuza, avec votre nouveau film Visite à Hokusai, eh bien, vous offrez un parallèle à la grande exposition Hokusai qui débute en octobre à la Bibliothèque nationale de France et qui sera dès septembre sur la toile.
みんな一緒に踊ろうよ。ワンツースリーキック、ワンツースリーキック。花の江戸の東京も、夢の都のニューヨーク、ロンドン、ベルリン、モスクワも。
1 2 3 kick 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 1 2 3 kick
King Twist Cacao, le twist des années 60, des 60s du miracle japonais. Mais nous parlons aujourd'hui autour de la grande table du bel aujourd'hui de l'archipel nippon, à la poursuite des femmes élégantes, des mauvais garçons et d'un vieillard fou de dessin, comme Hokusai se qualifiait lui-même. Il s'agit de planter le décor pour commencer avec vous, Radhika Jha. Si votre roman, La beauté du diable, aurait pu se passer dans bien des capitales, pourquoi est-ce que vous l'avez situé au Japon ?
Parce que quand je suis arrivée au Japon, j'étais très marquée par l'élégance des femmes dans la rue. On ne se sent pas comme dans d'autres villes que les gens s'habillent inconsciemment. Là, on sait que l'habit, comme les jardins japonais, en fait, c'est quelque chose qui a l'air naturel, mais qui est très pensé, très réfléchi. Et je pense qu'il n'y a, aucune autre... peuple que je connais qui arrive vraiment à s'habiller avec une telle netteté, une telle élégance. Et puis l'autre chose que j'ai remarqué, donc en fait quand j'ai vu comment les Japonaises s'habillaient, je me suis sentie tout de suite mal habillée, moche. Et j'avais vraiment envie d'apprendre comment elles faisaient cette transformation. justement. Et quand on voit leur vie, qui est quand même une vie qui a beaucoup de stress, les maris, les enfants, tout ce qu'elles doivent faire, les femmes mariées ou dans les bureaux, quand ils travaillent vraiment des heures presque impensables en Europe aujourd'hui, on se demande comment ils arrivent quand même à quelqu'un qui commence sa journée à 6h30 et qui termine à 9h du soir. Comment quelqu'un comme ça arrive à être si élégante? Et bon, il y a plein de secrets, par exemple, pour, il y a des choses, des produits, des tissus qu'on peut mettre contre la sueur en été, par exemple, qu'on colle dans sa chemise pour que la chemise ne tache pas. Et il y a plein de secrets très ingénus, très, très, très marrants aussi. Et très pratique.
Et vous avez craqué, comme Caillot, votre héroïne. Vous êtes allée, vous avez couru acheter un sac Vuitton.
Non, je n'ai pas de sac Vuitton, mais j'ai quand même craqué pour cette élégance. Et aussi, j'ai quand même craqué aussi pendant un certain temps, parce que quand on arrive dans une culture aussi forte que le Japon, mais aussi fermée, on se sent vraiment à l'extérieur. Et on a envie on se sent invisible et on a envie quand même d'être quelqu'un d'autre. Et je pense que les vêtements, c'est une façon aussi de se rapprocher à une culture.
Rappelons-le, Radhika, vous êtes originaire de Delhi. Hein, vous êtes né et puis vous avez parcouru le monde. En particulier, vous avez vécu en Suisse et en France, ce qui explique votre excellente maîtrise de la langue française. Ce Tokyo que vous avez découvert en y vivant de longues années et que vous avez donc arpenté pour vous documenter sur ces femmes élégantes, qu'elles soient office ladies ou mères au foyer. Il permet, en tout cas tout au long du récit de La Beauté du Diable, de découvrir toute une musique à travers les noms des rues, des quartiers. Quelle est cette géographie des femmes élégantes?
Il y a trois endroits, vraiment, pour moi, qui sont des clubs, si on veut, les lieux de rassemblement de ces femmes. C'est Omotesando. Et Omotesando, c'est une grande rue avec des arbres. C'est la seule rue, en fait, avec des magasins qui est assez large, justement, parce qu'en fait, c'est le chemin qui mène au plus grand temple, le temple Meiji de Tokyo. Et donc, cette rue est le rue pour faire cette parade, pour regarder et pour faire partie de parade. Et puis, cette rue est amusante parce qu'en haut, c'est des magasins chics et il y a des femmes entre 35 et 55 qui veulent être chics et qui veulent montrer qu'ils ont les sacs Louis Vuitton et qu'ils appartiennent à ce monde. Et en bas, il y a la culture de Harajuku, justement, et de Shibuya, qui est la culture jeune et un peu rebelle, mais quand même qui est aussi codifiée. C'est aussi un masque. Donc, on a l'impression, justement, de vivre en éternel dans un kabuki ou dans un no, où tout le monde est là avec les identités des acteurs et qu'ils jouent leur rôle. C'est fascinant. Sinon, il y a aussi le quartier de Marunouchi, qui est plutôt le quartier des femmes, des office ladies, parce qu'elles travaillent dans les bureaux tout autour. C'est un des quartiers business de Tokyo. Et qu'elles viennent à midi faire le shopping là-bas. Et donc ça, c'est plutôt... Et puis après, il y a Ginza, qui est le quartier historique et le quartier peut-être le plus connu par les étrangers, où tout le monde vient, surtout c'est plutôt les femmes qui veulent prendre le thé, les femmes aisées qui viennent prendre le thé ou déjeuner ensemble. C'est aussi un quartier de geisha et de nuit. Donc, c'est plus mélangé, très japonais.
Jean-Pierre Limousin, dans votre film de fiction qui est un peu culte dans la culture japonaise, Tokyo Eyes, on était plutôt du côté de la culture jeune, de la culture de Harajuku qu'évoquait à l'instant Radikaja. Mais il y a aussi votre Young Yakuza, ce documentaire qui donc suit la formation d'un jeune Yakuza puis de son chef de clan. Est-ce qu'il y a une géographie des quartiers interlopes, comme il y avait celle des quartiers de plaisir, au temps où Tokyo s'appelait Edo?
C'est-à-dire que souvent, du côté des grandes gares, oui, il y a des quartiers très, très, très interlopes, très louches, là où la plupart d'ailleurs des clans yakuza font un peu de business, quoi. Bien souvent, alors, c'est des quartiers vraiment qui sont très sombres, qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs, parce que c'est des gares un peu d'interconnexion entre le chemin de fer et le métro, quoi. Donc, comme toutes les lignes sont à peu près privées, c'est des lieux qu'on ne voit pas, effectivement, quand on est touriste pour la première fois, quoi, en tout cas. Quoi. Mais à Tokyo, ce qui est assez étrange, c'est que tout se mélange, en fin de compte, aussi. Donc, vous pouvez avoir dans des quartiers... parce que, par exemple, vous parlez de cette grande avenue qui... qui ressemble un peu aux Champs-Élysées, où il y a des immeubles formidablement architecturés, des choses sublimes. Et puis dans le bas, effectivement, il y a des petits musées, des estampes japonaises. Et puis il y a des choses aussi que nous, occidentales, nous ne savons pas voir, c'est que tout est vertical aussi, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien flâner et ne pas voir, par exemple, qu'il y a une salle de jeu au 8e étage parce que vous n'arrivez pas à lire les signes, tout simplement, quoi. Donc je pense que tout se mélange, quoi. Tout se traverse. Vraiment à Tokyo. Quoi.
Et vous avez traversé plusieurs strates de cette société japonaise et des signes un peu kabbalistiques qui en préservent l'accès ou qui en barrent l'accès aux étrangers. Vous vous êtes plongé, donc je le disais, avec Young Yakuza dans la vie quotidienne d'un clan. Comment vous est venue l'idée, puis surtout l'occasion de plonger parmi ces criminels?
Alors, d'abord, ça vient pas comme ça. C'est-à-dire que c'est un assez long travail, effectivement. Je pense que j'ai fait mon premier voyage. Enfin, bon, j'ai d'abord connu Tokyo par le cinéma. C'est une ville de cinéma. Et dans les années 80, par exemple, nous arrivaient en France des films qui étaient déjà un peu anciens. Quoi. Il y avait pas encore cette production, cette distribution de films récents qui arrivaient sur nos écrans. Quoi. Donc, on connaissait c'est un Tokyo qui était un peu ancien et je suis parti en 1981, enfin effectivement, pour la première fois, pour faire un voyage d'études sur l'art vidéo. Et je suis aperçu qu'effectivement, le Tokyo que l'on voyait était trop ancien par rapport effectivement, à la réalité. Quoi. Donc c'était vraiment un gros choc, d'autant plus que j'avais commencé un petit peu à apprendre un peu la langue, mais là aussi j'avais appris une langue trop classique, qui ne servait vraiment à rien, qui ne m'a jamais servi d'ailleurs. Et donc il y avait ce décalage, quoi, vraiment, et ça commençait comme ça, quoi, voilà. Et après, je suis. Le premier film que j'ai fait avec Alain Bergala, d'ailleurs, qui s'appelle Faux Fuyant, avait été sélectionné au premier festival de Tokyo. Qui était vraiment un truc incroyable, où il y avait qui était doté d'un prix phénoménal. Et la deuxième année, on s'est aperçu que le président était en Bastille aussi, il était très lié au Yakuza. Quoi.
Donc c'est pour aller chercher votre prix que vous avez dû intégrer un clan Yakuza.
On n'avait pas du tout gagné, on n'était pas... voilà, c'est un cinéaste japonais. C'est Jiji Soma qui avait gagné d'ailleurs, mais... donc mon rapport au Japon, en fin de compte, c'est une question de regard, quoi. C'est une question où j'étais assez fasciné pendant mon adolescence sur le regard de certains acteurs, certaines actrices d'ailleurs plus particulièrement, dans les films japonais. Et c'est parti de là, de cette intensité, voilà, que je ne voyais pas dans les films français ou européens ou américains, même si j'étais assez amateur, assez féru de films américains, je l'ai toujours été d'ailleurs, mais voilà, c'est parti de là, d'y aller voir, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, qu'est-ce que c'est que ce regard-là, quoi, voilà. Et effectivement, j'ai fait un film de fiction entièrement avec des acteurs japonais, avec une équipe japonaise dans les années 90, qui m'a permis effectivement de confronter, effectivement, j'ai vu que les acteurs et les actrices japonais avaient un jeu particulier, un regard particulier aussi, quoi.
Radhika-ja, vous, au cœur de votre Beauté du Diable, peut-être plus que les regards, il y a des impressions. C'est une collection d'impressions que vous avez mises ensemble pour créer cette histoire, l'histoire de Kayo. Des impressions qui vous ont assailli. Mais alors, laquelle, parmi toutes ces impressions, vous a la première mise sur la piste de votre narratrice? Vous dites que l'histoire de Kayo vous a été donnée une nuit en rêve.
Oui, je pense que le Japon, quand même, c'est un pays des impressions fortes, mais souvent, beaucoup passent par le non-dit, justement. Et quand il vit, et j'ai vécu 6 ans là-bas, on se rend compte qu'en effet, dans ma culture, dans la culture indienne et aussi dans la culture européenne et française, on essaie de mettre beaucoup américain aussi. On met tout notre poids dans les mots. On parle beaucoup, mais finalement pour pas dire grand chose. Et le Japon, c'est l'opposé. On peut dire plein de choses sans rien dire. Et c'est ça qui m'a tout à fait fascinée. Et je pense que c'est ça aussi pourquoi j'ai du mal à parler de ce qui m'a fait écrire ce livre. Parce que c'était justement ça. Je me suis endormie une nuit. J'étais très, très fatiguée. Et je me suis plongée dans une rêve, je ne sais pas comment. Et je me suis réveillée. Et l'image que j'avais dans ma tête, c'était une famille qui part en vacances et le stress de la mère qui doit mettre tout en ordre et tout dépend d'elle pour que les packings pour les enfants, c'était une vacance de ski, il neigeait et les enfants, etc., les vêtements et sont bien faits, et elle n'a rien oublié. Et puis soudain, elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose et c'est elle, parce qu'elle n'est pas dans la voiture. Tout le monde est parti et elle n'est pas dans la voiture, elle est dans la maison, dans le silence total d'une maison vide et la neige qui tombe et les gens sont partis et ils s'en aperçoivent pas. Et je me suis demandé mais pourquoi ? Et là je me suis rendu compte que cette femme était invisible.
Jean-Pierre Limousin, de la neige, il y en a aussi bien sûr sur le cratère du mont Fuji, peint, dessiné par Hokusai, auquel vous consacrez votre nouveau documentaire, Visite à Hokusai. On dit que ce grand peintre, ce grand artiste japonais du 19e siècle, de la fin du 18e et du début du 19e siècle, a inspiré les impressionnistes. Chez Hokusai, il y a une importance des impressions, justement ?
C'est-à-dire, ce qui a vraiment marqué les impressionnistes, enfin les artistes comme Van Gogh, Monet, je crois aussi, c'est pas forcément qu'une question de coloriste, enfin, Hokusai n'est pas vraiment un grand coloriste, mais c'est plutôt que les dessins étaient, figés à la seconde, avant que ça devienne un cri, quoi. Par exemple, pour vous expliquer les choses plus concrètement, l'une de ses plus grandes œuvres est la grande vague de vue de Kanagawa, par exemple. On voit effectivement une grande vague monstrueuse qui a une forme de main, en fin de compte, et qui s'apprête à saisir deux barques de pêcheurs, effectivement. Et c'est peint juste avant... c'est-à-dire qu'on a l'impression que le son nous manque, que le son existe là, que le son est figé dans le trait, et c'est plutôt ça qui a vraiment intéressé les impressionnistes. C'est-à-dire que sur les gestes, comme Degas, par exemple, qui était fasciné par les danseuses, retrouvait chez certains dessins de Hokusai, en particulier dans ce qu'on appelle la manga d'Hokusai, qui est une quinzaine de volumes où il a dessiné...
D'encyclopédie dessinée.
Une espèce d'encyclopédie où il a tout dessiné, quoi. Vraiment, il se permettait tout. Il y avait aucun motif mineur. Enfin, voilà. Donc, il y a cette chose où le geste est au bord, effectivement, du vacarme. Voilà, c'est ça qui a vraiment déterminé un peu les choses, quoi. C'est une espèce de rendre vivant le dessin. forcément très lié effectivement à la nature animiste de Hokusai et de tous ces artistes aussi liés à cette époque-là, quoi.
Alors à propos du vacarme du Japon, non pas d'Hokusai mais contemporain, Michel-Ange Vinti, réalisateur de La Grande Table d'été, vous a sélectionné Sugar Me, chanté par Miharu Koshi. Sugar Me, Miharu Koshi, un titre de 1983. Radikaja, femme et étrangère au Japon, vous avez fait l'expérience de l'invisibilité. Vous avez déjà prononcé par deux fois ce mot autour de cette grande table. Au fond, votre roman La Beauté du Diable n'est-il pas l'histoire d'une femme qui lutte contre cette invisibilité ?
Oui, au fond, vous avez bien lu le livre. C'est tout à fait ça. Je pense que l'invisibilité me fascine dans mon premier roman, le tout premier que j'ai écrit sur qui se passe à Paris d'ailleurs. C'était l'histoire d'une femme qui voulait être invisible, mais qui n'arrive pas parce qu'elle avait une odeur qui se dégageait dès chaque fois qu'elle essayait de se mettre en lien avec quelqu'un. Quand elle aimait quelqu'un, quand elle voulait être aimée, elle ne pouvait pas parce qu'il y avait cette odeur qui bloquait.
Ce roman, c'est l'odeur, donc.
Et ça, c'est l'odeur. Mais ici, c'est exactement l'opposé. C'est une femme qui, dans sa folie, est convaincue qu'elle est invisible, sauf quand elle a un vêtement neuf, quand elle porte quelque chose...
Des escarpins Gucci, un sac Ferragamo.
De chair et qu'elle vient d'acheter. Là, elle existe. Donc, c'est une lutte d'existence, mais je crois que c'est quelque chose d'universel pour toutes les femmes qui se rendent compte soudain quand elles ont des petits-enfants qu'ils n'ont plus de temps à eux. Et surtout au Japon, c'est vraiment frappant parce que comme il n'y a pas d'aide, on ne peut pas demander à quelqu'un. Il y a très peu de crèches et c'est très difficile d'avoir de l'aide, surtout dans les grandes villes où il y a la famille nucléaire qui habite dans un tout petit espace. Donc ces femmes sont obligées de tout prendre sur eux. Et en fait, dans la culture japonaise, c'est la femme qui est responsable pour la réussite de l'enfant dans la société, pour l'éducation de l'enfant. C'est elle qui va être jugée.
Donc elle disparaît au profit de ses enfants. Elle disparaît aussi quand elle est enceinte, vous le dites, parce qu'une femme enceinte est une femme laide au Japon. Donc on se cache aussi, même avant la naissance des enfants.
Mais moi aussi, quand je suis arrivée au Japon, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Et donc, c'est une expérience que j'ai vécue moi-même. Et je suis arrivée, je n'avais que des vêtements, justement, indiens, parce qu'en Inde, c'était ce qui était le plus pratique et le plus facile à mettre. Comme c'est un seul tissu quand on roule autour du corps, on peut avoir n'importe quelle forme. Et puis, soudain, j'étais là face à ces femmes chics, dans un sari qui était mal porté parce que j'étais énorme. C'était assez choquant pour moi.
Jean-Pierre Limousin, au début de votre film documentaire Young Yakuza, il y a cette mère de famille justement qui cherche à faire quelque chose de son fils et qui elle-même porte une belle chemise voyante. Elle a ce beau sac à main à ses côtés. Les Yakuza sont connus aussi pour leur tenue un peu flamboyante et qui se repèrent dans l'espace public. Mais justement, qu'en est-il de la visibilité et en même temps de l'invisibilité de ces mafieux, de ces groupes violents dans l'espace public japonais ?
C'est-à-dire que là aussi, c'est variable, quoi. Par exemple, la plupart des Yakuza portent des signes très distinctifs et même qui font sciemment pour faire peur aussi, pour terroriser un petit peu le passant, le citoyen, chose comme ça. Et puis il y a des gens aussi qui font partie des deux groupes de société, qui sont à la fois dans le visible, qui ont un autre travail et qui sont aussi qui ont une double vie aussi chez les gangsters. Ça existe beaucoup, quoi, voilà. Par exemple, quand j'ai rencontré, en fin de compte, c'est une histoire, je vais la faire très, très courte. Quand j'ai rencontré ce chef mafieux, c'était à Paris. C'est par l'intermédiaire d'une amie qui avait accepté de faire un peu de traduction parce qu'il venait pour corriger un texte, en fin de compte, d'un journaliste.
Ah non, il venait corriger un journaliste.
D'un journaliste, voilà, mais c'est que j'ai rencontré cette personne. Et effectivement, quand j'ai vu sortir du taxi, j'ai vu avec son collier, ils ont des tatouages qui sont très, très cachés. Ils les sortent sciemment. Lors des festivals, les Matsuri, quoi. Mais sinon, il y a toujours aussi ce côté où on se cache un peu, on n'affirme pas forcément qui on est tout de suite, quoi. Donc j'ai vu avec sa grande chaîne qu'effectivement, c'était quelqu'un du côté gris, ce qu'on appelle le côté gris un peu de la société, quoi, voilà. Et effectivement, c'était quelqu'un où j'ai pris tout de suite un café avec lui et la conversation a toujours tourné autour du cinéma. C'est des êtres de cinéma, quoi. C'est très étrange. C'est pour ça que j'y suis allé voir comme ça, quoi. Parce que sinon, je n'ai pas effectivement de propension à aller voir tout de suite. C'est la mafia. Enfin, c'est quelque chose que j'avais eu à faire un peu avec eux lors du tournage de Tokyo Eyes. Où effectivement, il y avait une scène qui était prévue, qui était dans le scénario, qui était dans un quartier très sensible à Shinjuku, où là, effectivement, le producteur japonais du film a été obligé de négocier avec, entre guillemets, une association de commerçants pour avoir l'autorisation de tourner dans cet endroit. Et le jour du tournage, effectivement, il y a eu deux, trois types assez baraqués qui sont venus, mais habillés un petit peu, c'était vraiment, c'était très kitsch, quoi. Ils étaient habillés comme les gangsters dans les films de
Takeshi Kitano, qui joue un rôle dans Tokyo Eyes.
Avec les plus belles chemises d'Hawaï, avec les chaussures blanches, et pour signifier qu'eux étaient vraiment là, ils étaient visiblement, c'était eux qui tenaient la place, et c'était eux qui assuraient la sécurité. Et puis j'avais eu aussi un autre souci un peu avec eux, où là j'avais voulu faire le malin, improviser une scène, où dans un autre quartier, effectivement, le quartier un peu des Love Hotel, et à peine on a eu le temps de sortir le bras du steadicam, de la caméra, que tout de suite des gaillards sont venus, ont parlé donc à l'équipe japonaise, et tout de suite m'ont dit on a deux minutes pour fiche le camp, quoi, voilà. Et c'était un peu les deux rapports que j'avais eu un peu avec eux. Et alors j'avais vu effectivement des films de Yakuza, parce que dans les années 60 et 70, c'était un genre à part. Il y a eu presque de 300 films produits par les studios aussi, des films de Yakuza. Mais ça ne m'intéressait pas vraiment, sauf que dans certains de ces films, il y a une part technique vraiment incroyable, puisque la plupart étaient filmés en scope. Les caméras, à cette époque-là, faisaient 25 kilos, et il y a des prouesses techniques incroyable dans ces films-là, quoi, voilà. En dehors de la morale, de l'immoralité plutôt qui était présentée, quoi, voilà. Et là, effectivement, quand j'ai eu ce rapport-là avec cet homme-là qui était responsable d'une famille d'un très grand syndicat, effectivement, du crime à Tokyo, mais sur le cinéma. C'est-à-dire que la première question qu'il m'a posée, en fin de compte, j'étais incapable de lui répondre. C'est une question très précise, un peu sur le parrain de Coppola, sur une scène qu'il avait marquée. J'avais oublié le film, c'est un film que j'aime beaucoup, et Coppola en particulier, mais cette scène-là, elle m'était passée sous les yeux, et je n'ai pas su lui répondre. Mais en fin de compte, grâce à ça, ça a été l'occasion de le revoir le lendemain. Voilà, et cette aventure s'est nouée un peu grâce aussi au cinéma.
Alors ici, on a affaire à un extrait de Young Yakuza. C'est un peu l'entretien d'embauche.
Alors, je suis très content que vous passiez cet extrait.
Novice de 20 ans.
Ce n'est pas du tout la voix du chef de... Enfin, c'est sa voix, c'est sa
personne. Une voix de cinéma. Personne, et il joue un rôle de parrain de à la Coppola dans cette séquence.
Bien sûr, bien sûr. On est dans les premiers jours de tournage. Et en fin de compte, tout le monde est terrifié, moi aussi, parce que qu'est-ce que je fous là? Aucun japonais n'a été accepté dans une famille comme ça. Et donc, il y a de la peur, il y a de l'appréhension. Ça se passe assez bien entre les gens, mais il y a quand même pas mal de méfiance. Et surtout, on est terrifié par... Est-ce que ça ne va pas s'arrêter tout de suite, vraiment un peu. Et alors, il y a cette présentation avec ce jeune garçon qui vient, ça fait partie du récit documentaire, qui vient dans cette famille mafieuse faire une expérience de 365 jours. Voilà, et au bout de cette année, il dira s'il veut rester dans cette famille ou quitter.
On ne dira pas ce qui se passe.
Et alors, effectivement, M. Kumagai prend cette voix, mais c'est une voix de cinéma, c'est une voix de Brando,
Affalé dans son canapé de cuir.
Et alors, quand on a tourné, et en fin de compte, après ce tournage, tout de suite après, je lui dis, mais c'est pas votre voix, qu'est-ce qui se passe, vous n'êtes pas enroué, et c'est effectivement l'inconscient, c'était formidable. C'est formidable.
On l'entend, Radhika, Jean-Pierre Limousin a plongé dans un espace, un territoire du Japon où nul n'avait porté les yeux, ou du moins la caméra, avant lui. Il a traîné aussi du côté des Love Hotels. Précisément, vous êtes allé voir du côté de la chambre à coucher, des relations entre un homme et une femme, un de ces territoires aussi où le non-dit règne ici, mais plus encore au Japon. Justement, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que vous avez pu noter du rapport homme-femme au Japon?
En général, je crois que au Japon, ce qui me fascine, c'est que tout est très pratique. Et il y a aussi finalement une très grande tolérance de plein de choses qui sera peut-être pas tolérée dans d'autres pays. Et ça m'a fascinée. Et c'est ça qui fait que les love hotels ou les yakuza,
hôtels d'amour, on se retrouve pour une étreinte,
sont tout à fait acceptés, ils font partie de la culture, c'est ça qui est intéressant quand on est au Japon. Mais par rapport aux relations hommes-femmes, d'après ce que j'ai vu, je pense que ils tombent parfois dans une piège, les hommes et les femmes, surtout les femmes des salariés, parce que finalement, ils se voient peu.
Donc les employés de bureau, les salariés.
Les salariés passent les cadres passent des longues heures au bureau et ils ne se parlent pas. Et donc finalement, ça devient une habitude de ne pas se parler. Et les choses, les mots qui ne sont pas dits finalement, ou les sentiments qui ne sont pas dits, deviennent des murs entre deux personnes. Et donc il y a des cas, beaucoup de cas justement, de divorce entre hommes et femmes dans un couple après la retraite de l'homme. Justement.
Parce qu'il se retrouve à devoir engager la conversation avec son épouse.
Ils peuvent plus se communiquer. Et dans les restaurants à Tokyo ou dans n'importe quelle ville au Japon, on voit qu'il n'y a que des femmes, presque. Ou sinon, parfois, un homme seul qui déjeune. Mais sinon, c'est des femmes qui déjeunent entre elles.
Des mondes très distincts, très séparés.
Très séparés.
Mais Jean-Pierre Limousin, il y a quelque chose qu'on ne dit pas à propos du grand Hokusai. C'est qu'il n'a non seulement peint ses vagues, ces 36 vues du mont Fuji, tous ces détails de la végétation, de la faune dans sa grande encyclopédie manga, mais aussi des images érotiques et aussi des portraits de belles femmes, ces bijin. Quelle conception de l'amour se dégage de l'œuvre de Hokusai ?
L'amour, pas véritablement. Je pense
parce qu'on ne trouvera pas hein, ces images qu'on appelle les shunga, ces images érotiques dans l'exposition qui est bien au Grand Palais et pas à la BNF, comme je le disais par erreur. En revanche, on les trouve dans votre film « Visite à Hokusai ».
Oui, parce que il y a une sorte d'explication sur un shunga qui est très très connu, qui a fasciné les écrivains japonais, qui s'appelle le rêve de la femme du pêcheur, effectivement, et qui est cette jeune femme, voilà, qui est assaillie, disons, par deux pieuvres, voilà, cette jeune femme nue assaillie par deux pieuvres, voilà. Et mais c'est plus des sentiments ou sur ces peintures érotiques, comme la plupart des choses qui viennent de enfin culturelles qui viennent du Japon, viennent d'abord de Chine, il faut savoir aussi quoi. Donc elles ont été
même les pieuvres érotiques, donc
surtout les shunga, enfin les peintures érotiques viennent de Chine, ça s'appelle pas les shunga, qui s'appelle peinture de printemps, c'est autre chose effectivement, mais et les gens raffolaient ça, mais d'une façon normale quoi. C'était des images à peu près normales qui pouvaient susciter effectivement un sentiment, un désir et du récit érotique.
À présent, il est l'heure de retrouver la chronique d'Au-delà Vigne à première vue qui s'entretient aujourd'hui avec Antoine de Galbert, président de la Maison Rouge.
Antoine de Galbert est président de la Maison Rouge à Paris, fondation d'utilité publique. C'est un collectionneur d'art contemporain qui a débuté sa passion et ses collections avec les bandes dessinées. La Maison Rouge, située boulevard de la Bastille à Paris, a été inaugurée en 2004. Au téléphone, Antoine de Galbert répond à notre question : quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain ? Et pour toute première vue, Antoine de Galbert, vous répondez ?
Je crois qu'à l'origine, c'était peut-être que j'ai regardé ce que j'aurais aimé faire, vous voyez, parce que j'ai essayé de peindre comme tout le monde, et je crois que c'est plutôt l'envie de... Comment dire, que mes achats sont dictés par ce que j'aurais aimé faire, tout simplement. Mais autrement, il y a bien sûr quelques peintures, quelques tableaux anciens qui étaient dans mon environnement familial, qui m'ont formé l'œil. Et je pense particulièrement à un immense tableau qu'on pourrait appeler une croûte, qui était chez ma grand-mère, très très grand, très ancien, 2 mètres par 2, et c'était une décollation de Saint-Jean-Baptiste, avec du sang qui jaillissait du cou tranché, de manière très naïve, et ça c'était des peintures qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont peut-être fait rentrer comme ça dans le monde des regardeurs.
Un éveil qui s'est donc fait par une œuvre ancienne dans la résidence des grands-parents, et le goût de la collection.
Et le goût de la collection, vous savez, c'est très inexplicable, parce qu'en fait on ne sait pas qu'on est collectionneur. On le devient progressivement, et un jour on se rend compte qu'on a plus d'œuvres que la moyenne des gens, et on est devenu collectionneur. C'est une sorte de quête comme ça d'un autre monde, quoi. Et puis aussi souvent on achète ce qu'on aurait aimé faire. C'est-à-dire que moi j'adorais dessiner, peinturlurer de manière absolument nulle, et parfois je suis éberlué par les choses que je vois et je les achète parce que je me dis, mais bon Dieu, pourquoi je n'ai pas été artiste, vous voyez ?
On revient au tableau de la maison des grands-parents.
Il n'y avait pas que celui-là, il y avait aussi des petits paysages. Moi, je suis parti d'un art qui représentait, c'est-à-dire d'un art bien avant le XXe siècle. Donc, avec cette habileté à représenter les choses, à représenter un paysage, une scène biblique, ou à représenter... Donc, je suis parti d'une sorte d'illustration, d'où d'ailleurs le goût pour la bande dessinée. Et puis ensuite, on s'éloigne de l'illustration et de la représentation pour arriver au XXe siècle à des choses plus abstraites ou plus conceptuelles. Mais l'origine de mon goût, il est dans la représentation. Mon tableau préféré, c'est l'autoportrait de Rembrandt jeune au musée de l'Aïe. Vous voyez, donc ma référence, c'est plutôt Rembrandt que Duchamp.
C'était à première vue la chronique d'Aude Lavigne. Qu'on se le dise, la Maison Rouge est ouverte tout l'été, avec en particulier l'exposition Le Mur, qui présente des œuvres de la collection d'Antoine de Galbert. Mais à propos de première fois, qu'en est-il pour nos invités durablement envoûtés par l'odeur du saké, Jean-Pierre Limosin? Il n'y a rien de tel que la première fois, comme dit K, votre personnage, votre héros dans Tokyo Eyes. Vous vous souvenez de la première fois, peut-être de la première vue d'un film japonais?
Alors, c'était sans doute pas la première fois que je voyais un film japonais, mais j'étais vraiment marqué. Et c'est ça qui m'a amené effectivement à voir du côté de la littérature et d'avancer plus dans le cinéma japonais. C'est le plan d'Ouzou, voilà, qui n'a pas été nommé, mais c'est le plan d'Ouzou où les deux personnages. C'est les plans, un plan récurrent qu'il a fait dans ses films parlants, pas dans les films muets. Hein. C'est le plan où les deux personnages se parlent et se regardent, en fin de compte. Donc nous, spectateurs, chose incroyable, il y a une place pour le spectateur, c'est-à-dire que nous sommes au milieu d'eux. Voilà. Et ça, c'est un plan, c'est tout simple, vraiment. Et bon, c'était fait dans les années, ce premier plan date des années 50. Voilà, c'est une invention du regard. Voilà. Et c'est grâce ou à cause de ça que, effectivement,
j'avais voulu vous trouver au milieu d'eux.
et d'ailleurs, dans Tokyo Age, mes jeunes acteurs japonais ne connaissaient pas Ouzou. Ça fait partie de la culture antique pour eux, quoi. Mais j'ai essayé de faire ça avec eux et j'ai retrouvé un petit peu. Ils adoraient ça. Ils ont retrouvé quelque chose où. Parce que c'est fait d'une certaine façon où il y a un point sur l'optique de la caméra, effectivement, presque comme un plan de regard caméra, mais pas tout à fait, qui est un peu décalé. Et les deux doivent le faire, voilà, en même temps, quoi. Et il y a un décalage, effectivement, où quand on filme ce plan, les acteurs ne se regardent pas, puisque l'acteur qui parle regarde la caméra, et l'acteur qui donne la réplique est un peu en oblique. Voilà. Donc ça fait un dispositif imaginaire très très culturel, quoi. Vraiment, il faudrait en parler beaucoup.
Radhika, le dispositif imaginaire que vous avez choisi pour attraper le réel, c'est l'écriture. Puisqu'on parle de première fois, vous avez le souvenir d'une lecture qui vous a donné l'envie, le désir de devenir écrivain ?
Je me souviens pas d'une lecture, mais d'un moment, certainement. C'est parce que je n'avais pas de mère et mon père, du coup, comme il ne me voyait pas la journée, il me traînait, il m'amenait dans les dîners avec des amis. Et donc, je me mettais sur un sofa et souvent, j'étais très ennuyée. Et donc, je regardais les livres des gens et je prenais un livre et j'essayais de le lire vers 9 ans, je me souviens de ça, 8-9 ans. Et un jour, il y avait le livre de Tess, c'est de Thomas Hardy, et qui est tombé dans mes mains. Et j'ai commencé à lire et je n'ai pas tout compris. Mais il y avait quelque chose qui m'a quand même tenue et je voulais savoir plus. Et donc, finalement, et puis aussi, en même temps, j'avais ce sentiment de ne plus être dans l'espace où j'étais, de vivre, en fait, dans deux endroits. Et c'était ça qui m'a toujours fascinée quand on lit quelque chose, c'est qu'on est, en fait, deux personnes. On est des personnes multiples, on occupe des espaces multiples. C'est peut-être très égocentrique, mais j'adore ce sentiment.
Philippe Piquet, éditeur de Radhika, éditeur, maître d'ouvrage des éditions qui portent votre nom. Vous nous avez rejoint dans ce studio, profitons-en. Vous dites que votre grande aventure éditoriale, celle des éditions Piquet, c'est une affaire de rencontre. Mais alors, quelle est votre première rencontre, peut-être votre rencontre décisive avec un ouvrage japonais ?
À dire vrai, je m'en souviens pas. C'était pas un ouvrage. C'est un ouvrage japonais, en fait, qui m'a bercé, mais qui ne m'a pas conduit d'abord au Japon, qui m'a conduit vers l'Asie. Je me souviens que j'avais piqué dans la bibliothèque un livre qui m'avait intrigué, qui s'appelait « L'histoire secrète des Mongols ». Et donc c'est l'histoire épique racontée par morceaux de l'épopée de Gengis Khan. Et donc un grand poème épique qui date, je sais pas, du 16e siècle, je crois. Et donc j'ai pas compris grand chose. Je savais pas qui était Gengis Khan à l'époque. J'étais adolescent, donc j'étais plutôt dans la guerre des Gaules. Mais je me suis approprié en fait l'aventure de ce personnage que j'ai trouvé immensément grand, plein d'ardeur, fou. Je savais pas qui c'était, mais cette façon qui vous enchaînait au texte, la musique en fait, simplement la musique, m'a conduit à en lire de plus en plus des fragments, à m'intéresser au personnage, à lire sa vie. Et être fasciné par cette contrée, par ce pays, et par ce seigneur qui s'était comme jeté dans le vide, un peu. Dans un vide qu'il ne comprenait pas et qu'il avait envie de chevaucher. Ce n'était pas seulement un conquérant, c'était un homme qui voulait appréhender le vide. Et c'est un peu par là que j'ai été conduit vers l'Orient de plus en plus extrême. Le Japon étant, je dois dire, l'aboutissement, en fait, finalement, géographiquement parlant, hein, le dernier filtre, si vous voulez.
Alors, avant de prolonger cette grande table d'été, de chevaucher avec vous dans les steppes extrêmes orientales, Philippe Piqui, il me reste à vous remercier, Radhika Jha et Jean-Pierre Limosin. Merci à tous deux. Radhika Jha, je rappelle que vous êtes l'auteur de La beauté du diable, qui sort ces jours-ci aux éditions Piquier, et également, entre autres, de L'odeur, dont on a parlé ensemble à nouveau chez Piquier. Jean-Pierre Limosin, votre visite à Hokusai, votre documentaire réalisé pour Arte, sera bientôt diffusé à la télévision, mais aussi disponible en DVD à partir du 21 octobre. Et puis vous dirigez, je crois, une petite collection de films pour Arte Créative.
Voilà. C'est des petits films créatifs.
À nouveau autour de Hokusai.
Donc,
grande exposition qui commence en octobre et qui se déroulera en deux temps, en deux parties, comme notre grande table d'été, au Grand Palais. Et tout de suite, eh bien, on parlait de la musique, de la littérature asiatique avec Philippe Piquier. C'est l'heure du live de Mathieu Conquet qui nous propose aujourd'hui d'écouter Emmanuel Tuny, qui adapte lui Louise Labbé et Apollinaire à sa musique pop et chante à présent Café sous la lune.
J'ai perdu ta trace à Bahia, paresseuse que j'aimais tant. La nuit m'a volé la chanson, qui est ce que tu veux de moi? Sur la promenade à Bahia, je vais de temps en temps chercher l'air de cette chanson, qui est ce que je tiens de toi? Elle s'appelle Café sous la lune, une chanson belle et semblable à aucune. C'est une chanson pour l'amour d'elle, elle s'appelle Café sous la lune, une chanson où elle ne ressemble à aucune. Les jours se ressemblent à Bahia, je traîne et je me mens. Je dis ce n'est qu'une chanson, cet air de toi à moi. Et puis il fait nuit à Bahia, paresseuse que j'aime tant. Tu es assise et tu dis bon, notre chanson, chante-la moi. C'est une chanson pour ceux qui s'aiment, elle s'appelle Café sous la lune, une chanson belle et semblable à aucune. C'est une chanson pour l'amour d'elle, elle s'appelle Café sous la lune, une chanson où elle ne ressemble à aucune. Ding, 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 ding café sous la lune. Une chanson belle et semblable à aucune.
C'était la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Emmanuel Tuny, dont le disque Les Variétés est disponible sous le label Villa Mariana. Et à propos de musique, je vous invite à découvrir le festival de musique de chambre Bangor à Belle-Île qui se clôt mercredi 20 août à l'église de Bangor avec un programme intitulé Histoire naturelle autour de Ravel, Satie, Granados et des textes extraits de l'œuvre de Jules Rennes.
Jusqu'à 14h, la grande table d'été. Martin Kénéen.
Et voici que s'ouvre à présent la deuxième partie de cette grande table d'été, tout entière tournée vers le pays du soleil levant. Une deuxième partie articulée à la première comme le panneau, la feuille, dit-on, d'un paravent sur lequel la calligraphie initiée en première partie se poursuit en compagnie désormais de l'éditeur Philippe Piquier, fondateur, voici 28 ans des éditions qui portent son nom. Rebonjour Philippe Piquier.
Bonjour.
Philippe Piquier, vous êtes venu aux littératures asiatiques parce que, disons-le d'emblée, vous ne publiez pas que des auteurs japonais. Il y a des auteurs de Chine, de Corée, d'Inde, du Vietnam au catalogue de Piquier. Vous êtes venu à toutes ces littératures d'Asie et singulièrement donc à la littérature japonaise, animée, dites-vous, par des rêves de pacotille. Mais alors, qu'est-ce que vous avez découvert en faisant traduire, en publiant les auteurs, en particulier nippons, la réalité ou alors d'autres rêves encore ?
Oui, en fait, le Japon, je m'en suis rendu compte très, très rapidement, la première fois où j'y suis allé. C'est vraiment un miroir très fort, un miroir un peu grossissant aussi, donc de tous nos fantasmes, de tous nos rêves, encore plus que la Chine. Et bon, je ne fais pas seulement référence à Pierre Loti, mais je fais référence à... Effectivement, à tous les rêves qu'on trimballe enfant et même plus tard sur ce pays. C'est assez étonnant. Et moi, comme d'autres, j'en avais.
Alors lesquels?
Les cerisiers en fleurs, en fait, tout cet orientalisme de bon aloi, enfin de mauvais aloi. Non, en fait, l'avantage pour moi, c'est d'être passé par la Chine avant. Et j'ai été un peu pris par la main par des gens compétents et pédagogues. C'est-à-dire qu'ils m'ont rien expliqué, ils m'ont simplement pris par la main, ils m'ont désigné les choses et appris un peu à les connaître. Ce qui fait que quand je suis arrivé au Japon, j'étais pas comme un chien fou à vérifier mes déceptions. J'étais simplement à essayer gentiment, calmement, d'essayer de, même pas de comprendre, d'essayer simplement de me poser, enfin, comment on dit, de poser sa voix. Quoi. Et c'est toujours ce que je suis en train de faire maintenant, ni plus ni moins. Et j'ai mis un certain temps, pour acclimater un peu ces rêves. Et ensuite, j'ai mis un autre temps pour accepter... une des choses que j'apprécie le plus au Japon, justement, c'est de ne pas comprendre. Je ne parle pas le japonais, je n'écris pas le japonais. Je le parle un petit peu. Mais d'essayer d'accepter de se perdre.
Et donc les auteurs que vous avez, que vous continuez à publier, ils vous perdent encore plus ?
Non. Mais ils ne sont pas là pour me rassurer, simplement. C'est un vrai labyrinthe, le Japon. C'est un labyrinthe mental. Pour reprendre un texte de Borges, c'est un peu le jardin ou sentier qui bifurque sans arrêt. Vous n'avez jamais de certitude. C'est vraiment, oui, le monde flottant, comme on dit. Et donc, il faut accepter cette situation. Et les livres et les écrivains que vous publiez ne sont pas là pour l'expliquer. Un roman, c'est une fiction aussi. Elle vous entraîne dans un labyrinthe. et plus particulièrement certains écrivains japonais. Donc vous trouverez jamais une solution. Vous serez simplement conduit de l'un à l'autre, conduit d'un moment à un autre, d'un temps à l'autre, d'un vide, d'un plein, mais pas comme en Occident. Oui, c'est exactement ça.
Harukanani. 身をかがめていた時間たちはうつろに夜の影に積み重ねられていた家で青年の背中は新しく腫れ上がっていた布団に潜る時このままでいいや思った目をつむりながら走り去るあの煩わしさは全て遠い春の日の少年の骨の中だカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ
Kazuki Tomokawa, le philosophe hurlant, chante Runaway Lad sur France Culture dans la Grande Table. Son album, c'est Vengeance Bourbon. Cet auteur, ce chanteur, acteur aussi, a une voix singulière, tout comme chacun des auteurs que vous publiez depuis 28 ans maintenant. Philippe Piquier, vous avez fait découvrir et partager au public francophone des auteurs de toute l'Asie, mais en particulier du Japon. Je pense au célèbre Ryu Murakami, mais aussi notamment au roman fondateur de Rampo Edogawa. Il y a aussi Les années douces de Hiromi Kawakami. Quelle nouvelle voix proposez-vous aux lectrices, aux lecteurs de découvrir, d'entendre en cette rentrée littéraire?
En cette rentrée littéraire, le Japon est à l'honneur puisqu'on publie beaucoup de livres. Mais finalement, quand je le regarde, ce sont d'abord des livres d'écrivains ou de peintres traditionnels. On publie des manuels de dessin de Hokusai qui sont pas connus. On publie aussi des entretiens de Oe Kanzaburo. On publie pas mal de choses, disons, d'écrivains assez connus déjà, ou de peintres assez connus. Plus tard, on publiera un roman d'un écrivain que j'aime énormément, qui est effectivement une nouvelle voix, assez dissonante encore en France, beaucoup moins au Japon, et qui est, l'auteur s'appelle Furukawa. Et on a publié de lui un extraordinaire roman, Belka, pourquoi tu n'aboies plus ? Un titre étrange.
Ça veut dire, pardon, Philippe Piquier, que dans cette société qu'on pressent avec nos rêves de pacotille tellement codifiés, on aime les voix dissonantes qui déchirent le silence ?
Oui, mais ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous acceptez, si vous voulez, le non-dit, si vous acceptez des codes, si vous acceptez aussi même des codes d'écriture qui vous sont chers, qui sont connus, si vous connaissez des écrivains classiques que vous ne pouvez pas accepter, comme nous d'ailleurs, des écrivains un peu dissonants, une écriture pulsée, une écriture orale, difficile en France à faire passer, une écriture très travaillée, mais en même temps très, très parlée. Une écriture aussi qui mêle la fiction et le fantastique, voire la science-fiction. C'est des écritures nouvelles au Japon et qui me portent poétiquement sur d'autres territoires, en fait. En France, je trouve un peu plus convenu l'écriture en France, enfin, des romanciers et romancières françaises. Au Japon, je sens qu'il y a une plus grande diversité. En tout cas,
peut-être plus, je ne sais pas, plus d'ardeur, plus de, peut-être aussi plus de brouhaha. Mais en tout cas, des écrivains sont vraiment, chaque fois, n'ont pas peur d'être dissonants. Et on a toutes les formes d'écriture au Japon. Après, évidemment, c'est à vous de les lire, mais le tri que je fais, c'est celui qui s'impose à moi d'abord, grâce aussi aux traducteurs. Et c'est des textes je veux dire, que je trouve enrichissants et beaux poétiquement, qui peuvent toucher les lecteurs français, moi, qui me font les publier.
Alors, il y a toute cette diversité, toute cette ardeur de la littérature japonaise et des littératures d'Asie au catalogue des éditions Piquier. Et toute cette ardeur, puisqu'il faut les lire, on peut aussi les lire et les entendre dans le cadre du festival Lecture sous l'arbre, qui a commencé et qui se déroule jusqu'à la fin de la semaine du côté du Chambon-sur-Lignon en Ardèche, avec les éditions du Chêne, autre éditeur qui se pique de ces littératures. On a justement l'honneur, dans la grande table d'été, d'avoir à présent Jean-Pierre Siméon, poète, qui est responsable de l'association Typographie et Poésie et qui se mêle de la programmation de ce festival, qui vous invite en invité d'honneur, Philippe Piquier, cette année. Bonjour Jean-Pierre Siméon.
Bonjour, bonjour.
Alors votre festival, il se tient dans des lieux interlopes, hein, on en parlait dans la première partie de l'émission, au Bar à Vin, au lieu dit Chêne, du côté du Bois de Chaumette, aussi en face du lac de Devessé, avec dans l'atelier des éditions du Chêne. Il y a du cinéma, des conférences, de la musique aussi, avec le Bambou Orchestra. Vous avez contribué à l'édition d'un poète japonais, Shuntaro Tanikawa, avec la réédition en bilingue de son Ignare, dans lequel il parle d'un piège délicieux. Est-ce que les lectures sous l'arbre du Chambon-sur-Lignon, c'est un piège délicieux pour les festivaliers ?
Oui, sûrement l'expression convient très bien. Vous savez, délicieux, en fait, que ce soit. Hein. En ce qui concerne le piège, oui, mais c'est un piège où on se rend volontiers. Je veux dire que les gens qui viennent aux lectures sous l'arbre, ils savent qu'ils vont être pris au piège du poème, de la littérature. Et je crois que ce sont des piégés heureux. On voit si ça fonctionne d'ailleurs au moment de la lecture. La lecture à haute voix, elle cherche bien à attraper comme ça. Ça fonctionne si les gens sont retenus par le texte, et le meilleur symptôme de ça, c'est qu'ils vont acheter le livre après. Vous savez, les lectures sous l'arbre, c'est la passion du livre, la passion du texte. Ça passe par la lecture à haute voix, bien sûr, avec des poètes, des comédiens, des passeurs de toutes sortes. Mais notre passion, c'est de faire en sorte que les gens reviennent au livre, partent avec un livre. D'ailleurs, les milliers de gens qui viennent aux lectures sous l'arbre, ils repartent toujours avec des livres qu'ils ont achetés sur place, dans la grande librairie qu'on a mis dans le champ, par exemple, en face de l'arbre vagabond, la librairie Bar à Vin dont vous parlez.
Alors précisément, vous participez à ce piège, puisque vous vous occupez de la programmation, et puis également avec Jean-Marie Barnot, vous êtes directeur de la collection Grand Fond de Chêne Éditeur. Qu'est-ce qui vous touche dans la poésie japonaise au point que vous ayez décidé de la faire partager au festivalier des lectures sous l'arbre ? C'est notamment la musique de cette poésie qu'on pourra entendre en version originale ?
Écoutez, on a publié le livre de Tanikawa dans la collection D'une voix l'autre, qui est dédié à Chêne à l'ouverture sur les écritures du monde entier. Et on n'avait pas encore de grande voix japonaise, et celle-là est immense. On sait qu'il est nobélisable, Tanikawa. Moi, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste comme Philippe Piquier de la poésie de Dorian et du Japon, mais j'avoue que, comme beaucoup de poètes français, on est tous tentés par la poésie japonaise, par l'infinie tendresse qu'ont les Japonais pour l'infime, pour le minuscule, et comment à travers ça il révèle des profondeurs et des gravités extraordinaires, sans oublier l'humour, il y a toujours une légèreté aussi dans tout ça. Et Tanikawa le manifeste particulièrement, et quand on a eu la chance de publier Tanikawa, puisqu'il a très peu publié en français, et c'est une grande chance de le faire connaître, eh bien on s'est dit, tiens, on va bâtir, chaque année on invite un pays, l'an dernier c'était la Grèce, avant c'était l'Allemagne, on s'est dit on va bâtir comme autour de la thématique du Japon, et je sais que les ressources sont nombreuses, vous avez parlé du Bambou Orchestra. Mais vous savez, dans la collection Grand Fond que je dirigeais avec Barnot, on avait publié un poète, un auteur qui s'appelle Ito Naga, en fait qui est un Français qui a épousé le Japon en quelque sorte.
Et qui sera aux lectures sous l'arbre.
Qui sera présent. Il a publié un livre qui s'intitule « La couleur et le parfum », Hiro Mokamo. Je vais vous en lire trois lignes, si vous voulez bien. Justement, ça a à voir avec le principe des lectures sous l'arbre. Dans la cuisine japonaise raffinée, Kaiseki, où l'on prépare de nombreux petits plats, le but n'est pas d'avoir du style, mais plutôt de satisfaire les goûts inconnus des invités en essayant discrètement différentes saveurs. Je pourrais dire que c'est exactement la définition de ce qu'on veut faire, en fait. Proposer, comme vous l'avez dit, dans plein de lieux, des formes très différentes. Ça peut être 12 personnes avec un poète, ils mangent ensemble et ils discutent. Ça peut être une lecture itinérante sous les arbres. Ça peut être au bord du lac de Devecé, comme hier à 21h, il y avait une lecture pour 160 personnes sur la plage. Vous voyez, dans des endroits très différents, l'idée, c'est quand même toujours de préserver, comme c'est possible ici sur ce haut plateau, la qualité des cours. Et le lien direct, le lien chaleureux, simple, quoi.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Siméon. Donc, les lectures sous l'arbre en Ardèche, donc du côté autour, tout autour du Chambon-sur-Lignon, c'est jusqu'au 24 août. Yo ! Japon d'Edo, interprété par l'ensemble Sakura. Philippe Piquier, on vous retrouvera sous l'arbre pour ces lectures du côté du Chambon-sur-Lignon. Vous aimez d'ailleurs citer ce proverbe japonais, « L'ombre de l'arbre est plus belle que l'arbre lui-même ». On parlait d'ombre et de lumière, avec également Radikaja et Jean-Pierre Limosin dans la première partie de cette émission. Dans la littérature japonaise, quelle place l'ombre occupe-t-elle?
Je crois que Radika en a... Il a fait allusion dans la première partie de cette émission. C'est accepter que les choses ne sont pas franchement noires ou blanches, que les demi-teintes, l'obscurité est peut-être plus riche que ce qu'on en dit. Bon, je fais référence aussi à ce grand texte de Tanizaki, L'éloge de l'ombre, que je pense tout le monde a lu, ou devrait avoir lu.
L'incertaine clarté que secrète chandelle ou lampes à huile, ce battement du pouls de la nuit que sont le clignotement de la flamme.
Oui, voilà, les scintillements, les clignotements sont plus riches que des grands phares. Et puis, il y a aussi cette idée que, ça c'est le pouvoir des mots, que, je prends cet exemple que je connais au Japon, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « hi », ça veut dire « oui ». C'est comme une alerte, une poussée vivifiante qui vous propulse vers l'avant. Voilà, c'est une incitation allègre, vous voyez. Ça veut pas dire oui. Alors, bon, pour schématiser, oui, le oui n'est jamais oui, le non n'est jamais non. Et c'est vrai que, voilà, le Japon, c'est un petit peu le monde à l'envers aussi. Il faut le savoir. Je crois que Lévi-Strauss l'a bien... J'avais lu une de ses conférences où il expliquait vraiment bien ça. C'est un monde qui n'est pas centrifuge sur le jeu. C'est un monde qui incorpore l'extérieur. Donc il faut ce moment, je dirais, crépusculaire où les choses se rejoignent et pour former une cohérence. Donc il faut laisser les choses se faire entre elles et pas arriver avec la lame tranchante pour décider voilà, des choses. C'est vrai que le non-dit est souvent plus riche, Radical l'a dit tout à l'heure, qu'un verbiage chinois, enfin c'est les Japonais qui parlent du verbiage chinois, tonitruant. Voilà, c'est vrai. Et l'ombre, quand vous êtes au Japon, accompagne tout. C'est l'ombre aussi musicale aussi. Hein. C'est l'ombre... C'est l'ombre des voix, en fait. C'est cette teneur, en fait, toujours entre clair et obscur, et qui fait cette richesse, qui fait que, c'est un peu compliqué, peut-être pour un occidental, habitué à des certitudes. Mais moi, ce qui me plaît, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au Japon, on perd ces certitudes. Et voilà, la grande richesse pour moi au Japon, et je le fais physiquement, quand j'arrive, et c'est presque un rite, quand j'arrive, c'est que je me perds la première journée.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Philippe Piquet. Je vous invite donc, chères auditrices, chers auditeurs, à vous perdre tout l'été et bien au-delà, à l'ombre des parasols, à l'ombre des arbres, ou à l'ombre des maisons ou de vos bureaux, si vous êtes des salarymen et des office ladies, donc à la découverte ou à la redécouverte du catalogue des éditions Piquet, qui propose bien sûr romans, essais, mais aussi des ouvrages pour enfants et même une collection érotique.
La Grande Table, c'est aussi l'été avec Martin Kénéen.
Et à présent, autour de la grande table d'été, eh bien, il est l'heure de la chronique de Marine Loyen, des vagues d'Okusai à la Bretagne, il n'y a qu'un pas. Bonjour Marine.
Bonjour Martin. Et nous partons aujourd'hui justement pour la Bretagne des bignoux, des bagades et des gavottes, la Bretagne des fest-noz, une tradition qui s'est exportée au gré de la diaspora jusqu'à Paris par exemple, dans le quartier de Montparnasse évidemment, mais aussi dans le Val-de-Marne, à Cachan ou à Villejuif où l'on vient danser l'andreau et le laridé. En décembre 2012, après 4 années de travail mené par l'association Dastoum, le fest-noz est inscrit au patrimoine culturel immatériel breton par l'UNESCO. Pourtant, ils auraient pu disparaître. Dans les années 30, il n'y en avait pratiquement plus. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que les fest-noz connaissent un renouveau, avant de connaître un véritable revival dans les années 70. Gérard Hall est journaliste et écrivain. Il milite depuis des années pour la diffusion de la culture bretonne. Il nous raconte son expérience presque mystique du fest-noz.
Le fest-noz prend une couleur un peu particulière en été à cause de la présence des estivants, quoi, des touristes et tout ça. Pour nous, je dirais, pur et dur, c'est plutôt l'hiver. Et c'est plutôt l'hiver et c'est plutôt au milieu rural que sur la côte, parce que ça prend ses origines plutôt à la campagne et en centre-Bretagne, les origines musicales du genre, quoi. La particularité, c'est que c'est pas une danse individuelle, c'est une danse en groupe, en cercle, fermé ou non fermé, selon les terroirs, selon les endroits en Bretagne. Et la particularité, c'est un peu ça, c'est, voilà, on se serre les coudes et toute l'énergie, enfin, il se passe quelque chose qui est à la fois physique et intérieur, je dirais. C'est un peu ça qui est particulier, parce que les gens qui voient ça de l'extérieur, des fois, les touristes, quand ils nous voient danser, ils se disent, mais ils font la gueule, ils sourient pas, ils se défoulent pas. En fait, il y a une espèce de force intérieure qui se développe comme ça, qui est sans doute l'énergie qui passe entre les gens. Et quand on la ressent, ça marche pas à tous les coups, ça marche pas dans tous les fest-noz, ça marche pas pendant toute la durée d'un fest-noz, mais quand ça arrive, et quand on vit ça, on a envie de le revivre, on recherche toujours ce moment-là, ce moment de grâce où il y a une harmonie, une communication totale entre les musiciens, les danseurs. On se fond, en fait, dans un groupe, quoi, dans une énergie collective.
Vous avez des origines bretonnes par votre mère, mais vous avez fait le choix de vous installer en Bretagne. Est-ce que le fest-noz a participé un peu à votre choix de vous installer à Douarnenez ?
Alors c'est vrai. Alors au début, je me suis installé justement en centre-Bretagne, en plein terroir des fest-noz, de la gavotte des montagnes. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, comme beaucoup d'autres néo-ruraux, le fest-noz a joué un rôle très très important, parce que mélange des générations, fête du village, voilà, ça permettait de faire connaissance, une manière de s'intégrer complètement extraordinaire.
Un moment de sociabilité.
Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est devenu, avec la modernisation, les danseurs, les chanteurs sont sortis de la ronde et sont montés sur une estrade avec une sonorisation. Et donc il y a eu un rapport frontal comme ça qui s'est instauré, avec les musiciens d'un côté et les danseurs de l'autre.
Vous parlez, parce que vous avez connu, vous, ces fest-noz avant les années 70. Il y a eu une grosse évolution dans les années 70, c'est ce que vous décrivez, une sorte de révolution culturelle.
Oui, parce que la Bretagne a explosé complètement au niveau culturel, au niveau de la musique et tout ça. Il y avait c'est l'époque d'apparition d'Alan Stivell, de tout un tas de chanteurs. Et pour moi, c'était extraordinaire aussi parce que j'avais 20 ans. Et puis, dans les fest-noz, on rencontrait beaucoup de jeunes filles. Enfin, c'était un moyen de aussi. Je crois que je dirais en 2-3 ans, j'ai rencontré plus de gens que j'en rencontrerai tout le reste de ma vie, quoi. C'était un foisonnement dans ces années 70 absolument incroyable.
Où la tradition s'est renouvelée ?
Oui, il y a eu une espèce de prise en charge de la tradition, de modernisation par les jeunes générations, d'électrification de la musique, de fusion aussi avec d'autres musiques, avec le jazz, avec le rock, et puis avec des musiques du monde, d'autres endroits, d'Afrique, les musiques tziganes, etc. Il y avait plein d'influences comme ça, irlandaises également.
Et si vous voulez danser en cercle ce soir en Bretagne, vous pouvez filer à Monterland, Etel ou Brec dans le Morbihan, à Ploumoguer ou Plougasnou dans le Finistère et à Plestin-les-Grèves dans les Côtes-d'Armor.
Merci Marine, rendez-vous demain pour une nouvelle chronique explosive donc et pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui, délicatement ombragée, était électrifiée et électrisée par Corinne Amar, par Brigitte Masson, Lola Kahn, Marine Loyen, Claudia Prolongeau et Martin Kénéen, avec à la réalisation Michel-Ange Vinti et à la prise de son Élise Leu.